carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Jusqu'au 1er février 2009, vous pourrez visiter à la maison de Victor Hugo l'exposition « Les Misérables, un roman inconnu ». La maison Victor Hugo propose de rendre la réalité de ce célèbre roman « Les Misérables », car tout le monde connaît l'œuvre ou la comédie musicale, mais le livre, le vrai, l'original, l'a-t-on lu et vu ? Danielle Molinari, directrice du musée, nous emmène dans cet extraordinaire voyage de Victor Hugo. Donc Madame Molinari, nous avons visité l'appartement. À présent, nous allons voir cette exposition qui est dédiée au monumental livre, enfin manuscrit de Victor Hugo.
Son Léviathan, disait-il.
Son ?
Son Léviathan.
Son Léviathan. Les Misérables. Donc, pourriez-vous nous parler, nous introduire cette exposition et puis nous parler de ce manuscrit qui est dans la demeure en ce moment de Victor Hugo.
Oui, qui est exactement dans l'endroit même où la rédaction a commencé. Et comme vous le savez, Victor Hugo habite dans cet hôtel de Rouen-Guéméné de 1832 à 1848. Et en 1845, il entame la rédaction d'un grand roman. Il a déjà connu le succès de Notre-Dame de Paris. Et à l'époque, ce roman, c'est l'histoire d'un homme. Et le titre qu'il envisage est Jean très Jean. On sait qu'en 1845, il est déjà très proche de Juliette de Rouet. Et c'est sa lectrice bien-aimée. On a des lettres dans lesquelles elle dit à Victor Hugo « Ah, j'ai hâte ce soir de retrouver mon Jean très Jean. » Puis, la pensée politique de Victor Hugo évolue, le titre se modifie et ça devient d'abord une misère jusqu'à ce que ses idées républicaines se soient renforcées. Il opte pour un titre plus humaniste, je dirais, Les Misérables. Il s'arrête en 1848 pour cause de révolution. Nous savons que peu de temps après, il part en exil, Belgique d'abord, chassé, Napoléon Petit. Aïe, ça va pas. On ne peut pas garder ce monsieur qui nous met en mal avec l'Empire français. Ensuite, il va à Jersey. Il prend fait et cause pour des proscrits contre la venue de la reine Victoria, chassé. Il arrive à Guernesey et il ne reprendra le manuscrit des Misérables, manuscrit d'ailleurs qui a failli tomber à l'eau durant la traversée de Jersey à Guernesey. Mais bon, ça ne fut pas le cas. En 61, donc si vous voulez, c'est un roman qui s'échelonne sur 17 ans, avec une interruption très très longue entre 48 et 61. Alors, si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu faire cette exposition ici. Vous l'avez dit vous-même, c'est le plus grand roman de Victor Hugo. Et c'est vrai que pour nous, il a commencé ici et il a terminé dans une autre maison dont nous avons aussi la responsabilité, vous le savez, à Guernesey, Haute-Villars. Il y avait aussi le fait que plus rien n'avait eu lieu depuis 1962, où ici même, il y avait eu une exposition consacrée aux Misérables pour le 100e anniversaire de sa publication. Mais l'époque était autre, les moyens étaient différents, et c'était une exposition qui était essentiellement axée, d'une part, sur le 19e et sur les documents. Elle nous a été très utile. Et dans l'appartement, comme vous le voyez, nous reprenons, disons, période par période, on peut dire ça comme ça, partie par partie, beaucoup de documents qui avaient été présentés alors. Nous avons dans l'antichambre d'abord des vitrines qui sont consacrées à l'entourage littéraire, au contexte littéraire dans lequel Victor Hugo se trouve au moment où il entame la rédaction du Misérable. Alors, nous avons d'une part des ouvrages comme Claude Gueux, par exemple, dans lequel, de Victor Hugo bien sûr, il évoque la problématique de la peine de mort, tout comme Le dernier jour d'un condamné. Nous avons aussi des ouvrages qui renvoient à cette misère. Il faut savoir qu'en Allemagne, au XIXe siècle, le pays de la misère, la ville de la misère, c'était Londres. Donc, nous avons des ouvrages de Charles Dickens, nous avons Oliver Twist, nous avons également ce roman qui, à l'époque, avait eu un succès phénoménal, le plus grand succès avant celui qui devait remporter Les Misérables, Les Mystères de Paris de Jeanne Hussue. Donc, si vous voulez, ça nous met dans un contexte de publication littéraire qui évoque déjà l'enfance maltraitée, la mort, les problèmes de justice, la misère, etc. Dans le Salon Rouge, qui ici est le salon qui restitue le mieux l'atmosphère dans laquelle vivait Victor Hugo lorsqu'il habitait Place Royale, nous avons mis en toute logique le manuscrit et nous avons mis des lettres de Victor Hugo à ses éditeurs, et notamment celles où il dit que c'est son Léviathan, que c'est un roman, que l'œuvre est à perte de vue, que c'est un roman énorme. Il dit aussi dans une lettre, on le voit, « Je suis tout bêtement assez fier de moi », vous voyez, quand il relit le manuscrit. Ce qui est intéressant, c'est aussi de signaler que lorsque Victor Hugo reprend la rédaction des Misérables en 1861 à Guernesey, il déclare lui-même avoir mis 7 mois pour relire ce qu'il avait écrit, Place Royale. 7 mois. Il est vrai que le roman était déjà très très avancé, presque terminé. Mais il va l'étoffer considérablement pendant la période de l'exil, et notamment de certaines digressions dont nous parlerons, notamment sur Waterloo, sur l'argot, etc. Dans le salon chinois, nous avons la publication du roman, des documents, qui montrent que Victor Hugo, là encore, s'est comporté un homme moderne et qu'il a attaché une énorme importance à la publication. Et cet effet exceptionnel, un fait exceptionnel, le roman paraît simultanément en Belgique, où le Victor Hugo de l'exil édite beaucoup, et grâce à Paul Meurice, son fidèle ami et fondateur de ce musée, simultanément donc à Paris. Donc il s'en occupe beaucoup, et ça nous permet d'aborder dans la salle à manger de Juliette la réaction du public, la réception de l'ouvrage. Nous avons notamment une lettre très éloquente d'Adèle Hugo à son mari, parce qu'Adèle est en France à ce moment-là, et elle lui dit, écoute, c'est incroyable, le livre est dans toutes les mains, les personnages apparaissent dans toutes les vitrines, et il y a eu fait véritablement exceptionnel, que nous avons comparé au succès que remporte aujourd'hui Harry Potter. Vous savez, lorsqu'un volume sort, la queue, on le sait, ça va sortir, la foule est là, la jeunesse attend, c'était exactement ça. Et dans les fabriques, à l'époque, les ouvriers se cotisaient, mettaient 20 sous chacun pour acheter un volume, le volume passait de main en main, enfin c'était quelque chose de tout à fait phénoménal, exceptionnel. Nous avons ensuite une petite salle dans laquelle, grâce à l'intervention du grand spécialiste de Victor Hugo et des Misérables en particulier, M. Garozin, nous avons pu montrer au public sur un court passage la minutie avec laquelle non seulement il rédige, mais il corrige à la virgule près, et nous voyons ces passages qu'il supprime, ce qu'il ajoute, cette ponctuation qu'il modifie, cet adjectif qu'il change, voyez, tout ça pour le meilleur. Et ce grand succès populaire que j'ai précédemment évoqué va entraîner, et nous le voyons à la fin, dans l'avant-dernière salle de l'appartement, des adaptations immédiates. Des adaptations d'abord théâtrales, celle du fameux Paul Meurice, auquel il doit tant et auquel cette maison doit tout, et d'Auguste Vacry, le fidèle compagnon également, souvent en exil. Et très peu de temps après, va arriver, et nous en voyons un exemple extrêmement intéressant, l'adaptation cinématographique. Nous avons dans l'appartement, comme vous l'avez vu, un petit film qu'on peut regarder vraiment tout à loisir, sans perdre de temps. Il fait 1 minute et demie, c'est le premier film des Frères Lumière sur Les Misérables. Et en fait, c'est un seul et même acteur qui personnifie tous les personnages en changeant un élément de son costume, de sa coiffure. C'est très amusant. Donc, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à cette réception, c'est qu'il s'agit d'une réception spontanée, enthousiaste, mais populaire. Et elle ne va pas de pair, comme c'est souvent le cas d'ailleurs même aujourd'hui. Parce que c'est populaire, c'est pas intelligent, vous voyez, parfois c'est un peu simple, c'est un peu facile. Alors les grands intellectuels émettent des réserves. Et Victor Hugo est confronté à ce type de réaction, même de gens qui étaient des proches, comme Lamartine, qui était avec lui membre du gouvernement provisoire en 1948 et sur les barricades, qui dit « mais non, mais c'est un roman dangereux, c'est un roman mensonger, on ne peut faire croire aux pauvres que la misère va disparaître. » Vous voyez ? Et ce n'était pas l'idée de Victor Hugo. Victor Hugo voulait attirer sur le problème. Il voulait redonner l'espoir, mais l'espoir avec quelques conditions, si vous voulez. Il dit toujours que c'est un livre de progrès. C'est un livre, il disait aussi, je ne sais pas si tout le monde le lira, mais je l'écris pour tout le monde.
Alors, qu'est-ce qui inspire Victor Hugo, Madame Molinari? Qu'est-ce qui inspire la pensée de Victor Hugo? Qu'est-ce qui lui donne envie d'écrire ce livre et qu'on retrouve ici même dans l'exposition?
Alors ici, dans l'exposition, je pense qu'on est très fidèle à la volonté de Victor Hugo de faire donc un livre pour tous, un livre pour l'homme, un livre de progrès, un livre dans lequel il enfouit des thématiques comme celle de la pauvreté, bien sûr, mais aussi de la religion, de la spiritualité, de la philosophie, de l'histoire. Je crois que c'est ce besoin, finalement, de parler de l'homme et d'alerter la société sur la condition de l'homme qui lui donne envie d'écrire ce roman pour répondre précisément à votre question. Il faut dire qu'au moment où il entame sa rédaction, c'est presque déjà un républicain, vous voyez, et c'est quelqu'un qui donc sent qu'il faut dire, qu'il faut donner à entendre, qu'il faut donner à voir. Mais c'est un livre porteur d'espoir, c'est pas un livre sombre, pessimiste, c'est parfois un peu triste, mais un peu mélancolique, mais c'est un livre d'espoir. Consacrer une exposition à ce livre pour le réhabiliter. Il nous semblait que ce grand succès populaire qui avait amené tellement d'adaptations cinématographiques avait fait que, au fil de ces adaptations, on perdait un peu les strates profondes du roman et on se retrouvait avec l'histoire d'un forçat réinséré dans la société, l'histoire d'une petite fille maltraité, une histoire d'amour, quelque chose d'assez mélodramatique. Alors c'est vrai que les adaptations étaient obligées de couper les digressions sur Waterloo, sur l'argot, sur les égouts, etc. Mais ce qui nous paraissait beaucoup plus grave, c'était qu'on perdait le texte déjà, puisque ce n'est plus le texte de Victor Hugo, et qu'on perdait ces thématiques profondes. Donc, nous avons cherché à faire ressortir celles qui nous paraissaient les plus fortes, les moins contestables. Et donc, dans les quatre salles qui sont allouées à cette exposition, nous abordons tout d'abord la problématique de la rédemption. Dans la grande salle, évidemment, parce que c'est le sujet fort qu'on évoque déjà dans l'escalier. Il y a un conditionnement dans l'escalier que vous avez vu en passant à travers des photographies et des grandes bâches de dessins d'Ernest Mignon-Ernest. La misère. Dans la salle 3, eh bien, nous sommes dans le jardin, nous sommes au Luxembourg, nous sommes dans le jardin de la rue Plumet. Nous sommes surtout dans une belle et jolie histoire d'amour entre Marius et Cosette, sous l'œil attristé de Pauline, qui aime aussi Marius, mais sans espoir, et de Jean Valjean aussi, qui est un peu triste de voir cette fillette tellement grande que bientôt il va se marier. Et dans la dernière salle, nous évoquons des moments très forts du roman, qui sont des moments d'histoire, à savoir d'une part Waterloo, d'autre part la barricade. Alors, dans chacune de ces salles, nous avons bien évidemment les illustrations de Braillon qui sont présentées de façon audiovisuelle, je dirais, dans des feuilletoirs, parce que ce sont celles qui ont donné une figure au grand personnage du roman. Mais c'est très 19e à la fois, et nous souhaitions quelque chose de beaucoup plus large. Il est à constater qu'il n'y a pas, stricto sensu, d'illustration des Misérables, en dehors de ces gravures-là, dans les grands peintres du 19e. Nous avons donc forcément travaillé avec des œuvres emblématiques, métaphoriques, porteuses de la thématique. Allons dans le sens que nous voulions aborder. Dans la première salle, Géricault, de Vitrois, mais aussi des œuvres d'artistes modernes, parfois contemporains, qui disent l'actualité de l'œuvre et qui créent une dynamique incontestable. Alors, pour ne pas perdre le livre de vue, nous avons au mur des textes qui sont en rapport avec les thématiques abordées. Nous avons des enregistrements faits par le grand comédien que Jean-Paul Zenacker, et qui permettent aux visiteurs d'entendre le texte de Victor Hugo, de le lire. Dans la salle consacrée à la misère, nous avons un espace pour Fantine, un espace pour Cosette, un espace pour une proposition pour lutter contre la misère, le travail dans la fabrique. Nous avons l'évocation des Thénardier, évidemment. Donc, nous avons là encore une rencontre d'œuvres emblématiques du 19e ou du 20e. Des œuvres de Gustave Doré, des œuvres de Rouault, des œuvres de Fautrier, des œuvres d'Abakanovitch, diverses œuvres, des photographies aussi, pour représenter une très belle photographie de Nadar qui représente Sœur Simplice, ou une magnifique photographie de Paul Strand représentant Madame Thénardier. Il faut savoir, vous le savez, que Victor Hugo n'est pas un illustrateur de son œuvre écrite. Mais ponctuellement, il y a des dessins. Et il se trouve que pour Les Misérables, il y a quelques dessins. Alors, bien évidemment, nous les présentons, ces dessins de Victor Hugo. Un portrait de Thénardier qui montre ce visage grimaçant et terrible. Et puis, des dessins du petit Gavroche, ce gamin de Paris qu'on retrouve dans la salle de l'histoire au moment des barricades. Nous savons que Victor Hugo n'a pas inventé le gamin de Paris, mais nous savons aussi qu'il lui a donné un nom, c'est un Gavroche. Et à côté de photographies anciennes, nous avons jugé bon de mettre aussi des photographies de Brassailles qui montrent qu'il y a toujours dans la jeunesse en France de la misère. Mais ce n'est plus à Paris tellement. Cette misère s'est déplacée, c'est la misère de la banlieue. Et nous avons donc des photographies qui évoquent davantage, je dirais presque la zone, vous voyez, ces jeunes gens qui sont sans travail, qui sont au chômage, etc. Alors nous avons également une belle évocation du jardin du Luxembourg. Nous avons un très beau Picasso qui montre Éponine, qui aime sans espoir Marius. Nous avons des œuvres de Derain, mais nous avons aussi, pour représenter le couple, un très beau Courbet qui nous a été prêté par le Petit Palais. Bon, dans la dernière...
Des Rouleaux également ?
Oui, tout à fait. Alors, dans la dernière salle, essentiellement deux grands axes, des axes historiques. Ça me permet de vous dire que finalement, le roman, vous le savez, s'achève en 1832. Donc, nous évoquons ces barricades de 1832. Mais la façon que Victor Hugo a d'en parler est très imprégnée de ses souvenirs personnels de la barricade de 1848. Vous voyez ? Alors qu'il était membre du gouvernement provisoire. Alors voilà, cette exposition essaie d'aller au plus profond de l'œuvre. Voyez, il n'était pas question pour nous de raconter l'histoire, parce que nous aurions été devant le même problème que les adaptateurs de cinéma. Nous aurions dû couper et nous aurions fait jouer un arbitraire. Alors que là, on peut ne pas être allé jusqu'au bout. Sans doute que pour Les Misérables, on peut évoquer encore mille choses. Vous savez, c'est gigantesque, c'est énorme. Mais je crois que les thématiques que nous abordons et que nous essayons de donner à voir, voyez, à travers des artistes dont les démarches sont très voisines de celles que Victor Hugo décrit dans son texte.
Et pour ce faire, vous avez voulu mélanger des œuvres contemporaines avec des œuvres plus anciennes.
Oui, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est pour nous déjà un penchant. On aime bien mettre Victor Hugo dans l'actualité. Et comment le mettre mieux dans l'actualité qu'en confrontant ses œuvres, qu'elles soient graphiques ou littéraires, à des œuvres d'artistes modernes, voire contemporains. Et pour nous, si vous voulez, c'est une dynamique aussi. Vous savez, c'est un roman dans lequel les mots se bousculent, les mots s'amoncellent. C'est pas un livre d'un jour, c'est presque le livre d'une éternité, vous voyez, c'est une chose immense. Donc, on ne voulait aucune exclusion. Donc, on a des œuvres modernes, mais on a aussi des œuvres contemporaines. On a des œuvres d'Avakanovitch, on a des œuvres de Berlin, de Bruckière, on a des Prasinos, on a des Monori, et qui vont dans ce sens, voyez, mais sans perdre de vue la thématique, l'envie que Victor Hugo a d'alerter. En fait, c'est un cri aussi, Misérable, voyez.
Parce qu'au-delà du roman, il y a aussi l'engagement propre de Victor Hugo.
Oui, mais c'est un engagement humain, c'est un engagement social. C'est un engagement. Vous savez, il y a un très beau texte dans la dernière salle où il dit que finalement, il faut se battre. La barricade, c'est aussi le rêve, c'est aussi l'espoir. Vous voyez, c'est une horreur. C'est ça qu'il cherche à dire. Sortons l'homme misérable de sa condition misérable. Vous voyez, et alors les moyens, il en propose certains. C'est aussi l'école, c'est l'enseignement, c'est le respect d'autrui, c'est la conscience. C'est un roman qui... Et nous terminons d'ailleurs cette idée-là, si vous voulez, la conscience. Victor Hugo n'est pas un religieux, mais c'est un homme qui croit. Vous voyez, c'est encore un des aspects qui peuvent paraître parfois un peu... paradoxal chez Hugo, c'est qu'il a envie de dire « Ayons l'espoir, croyons en quelque chose ». Les images que nous mettons à la fin, les deux dessins de Victor Hugo, le rêve, la conscience devant une mauvaise action, sont également porteurs d'espoir, vous voyez, mais sont également des alarmes que ça, c'est pas terrible.
Parce qu'effectivement, il faut rappeler que Victor Hugo, on trouve beaucoup de dessins de Victor Hugo ici même à l'exposition, ouais. Ainsi que des documents qui l'ont certainement influencé et inspiré, des documents de l'époque du bagne. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Des documents ?
Des documents, en fait, des fiches de l'époque du bagne, lorsqu'on envoyait les gens au bagne, enfin les prisonniers, dans la vitrine de l'entrée.
Oui. Il y a beaucoup de documents dans l'exposition, même au premier étage. Nous trouvons des éléments qui renvoient à la condition du forçat. Nous avons des fers de forçat. Nous avons des documents qui évoquent finalement le bagne, qui évoquent et qui vont jusqu'à évoquer la justice. Alors, on l'évoque de diverses manières. On l'évoque essentiellement dans l'exposition par ce fameux procès au tribunal d'Arras, où on pense avoir trouvé ce forçat évadé Jean Valjean et où on est sur le point d'accuser Champmathieu. Alors, voyez, je vous parlais de la conscience. On sait que dans le roman, à trois reprises, Jean Valjean va être confronté à sa conscience. Il en a la révélation au tout début du livre, lorsque l'évêque de Digne, après qu'il ait volé de son argenterie, lui offre aussi les chandeliers. Alors ce forçat qui ne sait pas ce qu'est la conscience, qui ne sait pas ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, qui a été mis au bagne parce qu'il avait volé du pain, s'interroge, se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et l'évêque lui dit « je te donne les chandeliers, mais c'est ton âme que j'achète. » Et à partir de là, et très peu de temps après cette rencontre, Jean Valjean va avoir le sentiment qu'il y a le mal et qu'il y a le bien et qu'il doit, lui, être en mesure de faire des choix. Alors, il fait d'abord un mauvais choix avec le petit Gervais en lui volant son argent, sa pièce. Et c'est la première fois dans le livre que Jean Valjean va dire « je suis un misérable » parce que brusquement, il a une prise de conscience, c'est le cas de le dire. Ensuite, il aura le moment du tribunal d'Arras où il ira se dénoncer alors qu'il peut ne pas le faire, mais c'est sa conscience qui le pousse. Et puis enfin, là encore, il pourrait se taire. Lorsque Cosette a épousé Marius, vers la fin du livre, il va se confesser à lui et lui dire « je ne suis pas de votre milieu, je ne suis pas celui que vous croyez, je suis Jean Valjean, je suis un forçat, je n'ai rien à faire parmi vous. » Voyez ? Donc, c'est un livre dans lequel la conscience joue un très très grand rôle. C'est pour ça qu'on a articulé l'exposition beaucoup autour de ce passage, si vous voulez, dès le début, et on finit sur ces œuvres-là parce que, voilà, la conscience, l'homme qui tombe de Rodin, vous voyez.
C'était donc Danielle Molinari, directrice de la maison Victor Hugo, qui nous emmenait dans ce voyage très typique de Victor Hugo et du célèbre roman Les Misérables. Je rappelle que l'exposition peut être vue jusqu'au 1er février 2009, à voir donc très rapidement.